bonjour. Voilà, nous nous retrouvons pour cette nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre, toujours en compagnie de Sidi, que je salue et que je remercie pour sa présence active. Et nous allons, en cette journée de grève générale qui donc se déroulait dans toute la France, faire un petit point sur la manifestation marseillaise qui a eu lieu ce matin, qui est désormais achevée. Alors, je dis grève générale, c'était le ton et le titre de l'appel. On n'est pas tout à fait, très honnêtement, au niveau de la grève générale. Une grève générale, c'est une grève type mai 68, où il y a 10 millions de grévistes dans leurs usines ou dans leurs entreprises, dans leurs commerces, etc. On n'est pas encore à ce niveau-là. On est au niveau d'une grève nationale qui, pour ce qu'on a vu dans les rues à Marseille, a été relativement suivie. Mais là aussi, une entreprise ou dans des villes où les déserts syndicaux existent. Alors il y a des noyaux forts et puis aussi des déserts syndicaux. Et donc les appels à la grève passent plus ou moins bien. Mais donc, sans vous en dire plus, puisque je n'ai jeté qu'un coup d'œil rapide sur cette manifestation marseillaise, on va faire appel à notre ami Édouard qui est en ligne, qui lui a fait la totalité du parcours et qui va nous donner donc sa propre appréciation de l'événement. Bonjour Édouard, rebonjour, puisqu'on s'est croisé tout à l'heure au bord de la manifestation. Alors, j'entends plus. Allô, allô ? Alors, est-ce qu'il est en ligne ? Oui, ça y est.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, ben voilà, je te laisse la parole pour faire ta présentation de la manifestation telle que tu l'as vécue, donc, d'un bout à l'autre.
Bien, ben écoute, ça a été une manif importante, assez grosse.
Oui.
Comme Marseille a l'habitude de faire.
D'en faire, oui.
Voilà, les confédérations étaient bien présentes, dont la CGT et tous les autres, sauf FO qui avait appelé, mais qui n'était pas présente.
Oui. Ça fait partie du paysage aussi marseillais, ouais, ça, ces appels.
Ouais, ça fait partie, effectivement, du paysage marseillais. Les Gilets jaunes bien présents, très beau cortège aussi.
Voilà. Alors, ils étaient en partie dans des morceaux où c'était des tronçons gilets jaunes dans la manif et puis mélangés un peu partout ailleurs.
Tout à fait, oui. Oui. Et les slogans étaient assez communs.
Oui.
Aussi bien ceux des confédérations que des gilets jaunes.
Voilà. Alors, la CGT n'en est...
Les CRS étaient quand même bien plus près des gilets jaunes que des autres manifestants.
J'ai remarqué aussi, effectivement, ouais, comme s'il y avait un endroit plus périlleux du point de vue de l'ordre public du côté jaune que du côté rouge. Ça, c'est une indication au moins sur les consignes qu'ils ont. C'est-à-dire qu'effectivement, les flics à pied, donc avec tout le barda, le matériel, les matraques et tout, suivent les parties du cortège où il y a le plus de gilets jaunes et pas les autres.
Tout à fait, oui.
Ouais. Comme si c'était un objectif spécial. Ouais.
Voilà.
L'histoire a démontré que c'était effectivement un objectif spécial.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Bon, ils ont eu droit à quelques slogans particuliers. Tout ça par rapport au nombre de blessés LBD, quoi.
Oui, oui.
Donc, ils ont bien entendu aussi, quoi.
Voilà, c'est bien. C'est
bien. Sinon, les médias disent qu'il y avait quelques milliers, mais bon, les images sont conséquentes à la télé. Hein. C'est assez visible que c'était pas une petite manifestation, c'était une manifestation importante.
Oui, oui.
Voilà. Ça continue et ça continuera samedi.
Voilà, tout à fait. Alors, ce qui est notable aussi, j'ai entendu et tu as entendu aussi que il y a des camions qui dans les sonos CGT qui disaient nous allons gagner avec la CGT et avec les gilets jaunes.
Et ça, les gilets jaunes.
C'était donc le porte-parole de la CGT qui disait ça lui-même, ce qui est une évolution assez importante par rapport aux semaines précédentes.
Oui, tout à fait. Il y avait une certaine méfiance et bon, ça s'est clarifié. Effectivement, dans le combat avec eux, avec tout le monde, parce qu'on aura besoin de tout le monde.
Exactement.
C'est sûr.
Exactement. Et au niveau de la prise de parole finale, je crois que les Gilets jaunes ont eu droit aussi au micro officiel.
Ils ont eu droit au micro. Ça, on a débouché, on est arrivé à la porte d'Aix. Donc, c'est là où il y a eu un petit meeting où chacun a dit la sienne. Voilà, donc ça, c'était très bien. C'était très, très bien.
Voilà, donc on pourrait dire La CGT a plus... Parce qu'il faut dire qu'à Marseille, pour les auditeurs qui ne sont pas marseillais, une manifestation comme ça, c'est à 80% des CGTistes. Ça, c'est les rapports de force tels qu'ils sont. Effectivement, alors il y a des cortèges de la FSU, de Solidaires. Mais effectivement, de toute façon, la CGT est écrasante dans sa domination numérique. Donc elle l'est restée, c'est les mêmes proportions. Seulement, il y a eu des périodes, bien sûr, on se souvient des moments historiques, 1995, avec d'énormes cortèges qu'on n'a pas atteints. Et il faut, moi, ce que j'avais envie de rappeler aussi, c'est que cette CGT, et les autres syndicats qui suivent d'ailleurs, a souffert un certain nombre d'insuccès, d'échecs. C'est-à-dire l'échec, c'est l'échec contre la loi Comrie, c'est l'échec contre les ordonnances Macron. Donc ça pèse dans la conscience syndicale et ça pèse dans la réactivité des militants. C'est-à-dire, ils disent, oui, on essaye, mais c'est dur d'aboutir. Et c'est ce qui a pu, je crois, peut-être donner l'idée à certains gilets jaunes de dire ils ne sont pas combatifs. Alors, je ne dirais pas ça, ils ont quand même beaucoup souffert. Ils ont quand même beaucoup souffert. C'est-à-dire, les échecs se payent.
C'est pesant, ça, c'est sûr. Tout à fait. Donc là, la réaction, elle a été imminente et grande.
C'est-à-dire, si on n'est pas nombreux avec les syndicats, il faut aussi ajouter d'autres forces. C'est en unissant les forces qu'on arrivera à quelque chose face à cette République décidément bien, bien, bien fatiguée. On va en reparler au cours de l'émission. Ben écoute, merci. Tu as d'autres choses à ajouter, Edouard ?
Non, si ce n'est que il y a un nouveau rendez-vous samedi après-midi à 14h.
D'accord.
Et on sera présent comme tous les samedis.
Très bien.
Et le plus nombreux possible. C'est clair que pour beaucoup de gens, beaucoup de citoyens dans la rue.
Voilà. Toujours au Vieux-Port.
Toujours au Vieux-Port, oui.
Très bien. Grand merci, Edouard. À très bientôt.
Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Voilà, on va continuer à parler un petit peu de la France, mais la France vue d'Afrique, puisque la France et l'Afrique, c'est un espèce de couple infernal qui continue à l'être. Vous savez que ces derniers jours, l'armée de l'air française, basée à N'Djamena, capitale du Tchad, a bombardé, donc par les Mirage 2000 qui sont là-bas en place de façon permanente, a bombardé des convois d'un groupe armé qui est en train de se diriger vers la capitale. Donc c'est un groupe qui part du nord, qui vient vers la capitale N'Djamena qui est au sud, parce qu'il y a un groupe qui est en désaccord avec le gouvernement du dictateur Idriss Déby et qui annonce... Alors il n'a pas été détruit apparemment par les deux passages et les deux passages de bombardement et de tir à la mitrailleuse des Mirage 2000, mais il continue son avancée vers la capitale avec l'intention avouée, claire, dite de renverser le gouvernement du dictateur Idriss Déby, lequel, donc, je le rappelle, a été mis en place par la France il y a 30 ans et est manifestement très, très soutenu. Ces derniers actes de l'armée française en témoignent. Mais ce que ça rappelle, puisque ça a eu lieu au Tchad, c'est que ces dernières semaines, le Tchad a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt pour la République française. Alors, cet intérêt s'est manifesté d'abord par une visite qui n'a été connue qu'à posteriori d'un certain Benalla, qui est allé, je crois que c'était au mois de décembre ou au mois de novembre, au cours d'une visite non officielle, mais fort bien organisée, fort bien financée, tellement officielle et pas officielle, officielle entre guillemets, qu'il a quand même été reçu. Alors on a dit d'abord par le frère d'Idriss Déby, et puis finalement on a fini par avouer qu'il avait été aussi reçu par le président Idriss Déby. Donc qu'un monsieur qui n'a plus de fonction officielle, qui est en délicatesse avec la justice française pour toute une série de raisons, soit reçu sans aucun problème par un chef d'État ami de la France ou un chef d'État mis en place par la France et défendu et maintenu par la France, indique quand même que ce personnage de Alexandre Benalla est décidément bien, bien influent et bien, bien puissant. Aussi poursuivi soit-il par la justice française, et on se dit, mais qui attrapera l'autre, ce jeu de chat et à la souris? On se demande si la justice n'est pas quelquefois dans le rôle de la souris. Les semaines qui viennent en diront peut-être plus. Et on verra si effectivement la magistrature française est encore capable de faire face à des difficultés de ce même type et à des décisions prises au ministère de la Justice ou même carrément à l'Élysée qui entravent un petit peu son fonctionnement ou le rendent un peu délicat. Et ce à quoi je voulais insister, c'est que Alexandre Benalla a été donc à N'Djamena, il a été reçu donc au plus haut niveau pour affaires, paraît-il, et cette visite officieuse liée à des questions économiques, enfin on n'en a pas su beaucoup plus et on n'en saura probablement pas plus tout de suite, a été suivie par une visite du président de la République lui-même, comme si on pouvait dire que Benalla était venu préparer la visite de l'ami Emmanuel. Une façon officieuse de préparer cette visite. On vient voir quelle est la température, qu'est-ce qui se prépare. On fait quelques promesses en disant... Et puis il y a des choses qu'on peut dire comme ça quand on n'est rien du tout. C'est-à-dire quand on ne représente officiellement pas la République française. Mais c'est là qu'on peut dire discrètement au chef de l'État « Bon, on fera ceci, on fera cela, mais il ne faut pas que ça s'ébruite. Et puis ça ne peut pas passer par les canaux diplomatiques officiels parce que c'est quand même un petit peu tangent. On est un peu au-delà des lignes rouges de la diplomatie et du droit international. » Enfin, dans la France-Afrique, on en a déjà vu d'autres. Et donc, M. Benalla fait ce métier de barbouze, qui est un vieux métier créé il y a quelques décennies dans la République française. Et il le fait apparemment avec beaucoup de talent et pas beaucoup de difficultés jusqu'à présent. Donc, la visite de Benalla est suivie par la visite d'Emmanuel Macron. Et puis, tout ça s'est couronné, j'allais dire, comme si finalement le... marionnettiste arrivé en dernier. C'est-à-dire, on a d'abord vu le spectacle, Benalla, première petite marionnette qui arrive, qui fait ce qu'il a fait. Donc. Ensuite, deuxième marionnette, Emmanuel Macron. Et en fait, le tireur de ficelle arrive le dernier, quand tout est mûr et qu'au fond, il considère que le travail a été fait, que le spectacle a été très très bien organisé, mais qu'au fond, c'est lui qui va tirer les marrons du feu. Ce tireur de ficelle s'appelle Benjamin Netanyahou. Qu'allait faire Benjamin Netanyahou au Tchad ? Alors, quel est l'intérêt de l'État d'Israël à aller avoir une visite très officielle au Tchad, être reçu par le chef de l'État, à annoncer quantité de projets économiques et tout ? Mais il allait sans doute y nouer des liens avec une des républiques africaines parmi les plus pauvres et les plus arriérées dans son développement. Songez par exemple, je ne donne qu'un chiffre, mais il y en aurait quantité d'autres, que... Il y a simplement chez les femmes, les filles, les jeunes filles tchadiennes, 20% de ces jeunes filles qui vont à l'école, c'est-à-dire 80% qui sont laissées dans l'analphabétisme. Voilà le régime très avancé du président Déby, en qui la France a toute confiance. Alors en fait, ce que vient faire monsieur Benjamin Netanyahou au Tchad, c'est qu'il vient s'assurer de facilité de transport aérien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, en fait, regardez. Alors, il faut que vous savez que l'intérêt que manifeste Israël pour l'Afrique à l'heure actuelle est un intérêt lié au fait qu'aujourd'hui, le continent africain est face à des appétits de plus en plus divers et multiples. L'appétit français n'étant qu'un vieil appétit un peu sur le recul, mais il y a d'autres appétits. Les appétits des États-Unis qui sont là depuis longtemps, des appétits d'une autre nature, mais qui existent aussi de la Chine, des appétits nouveaux de la Russie. Et donc, là, dans ce concert d'intérêts divergents, il y a la voix d'Israël qui se lève. Alors, Israël est bien entendu dans le camp occidental, américano-européen, mais avant ses intérêts à lui, il faut savoir que, par exemple, dans le secteur minier africain, qui est un secteur extrêmement porteur, avec un avenir considérable et qui pourrait enrichir l'Afrique si tant est que les minerais n'étaient pas exploités, soit de façon sauvage, soit par des groupes capitalistes qui ne sont pas africains, ça c'est tout autre chose, mais il faut savoir qu'il y a de nombreux intérêts israéliens, de grandes compagnies israéliennes et de l'argent israélien qui est dans beaucoup de mines de pays africains. Et donc en fait, pour que ces capitaux israéliens aient une bonne porte ouverte, soient bien accueillis dans tel et tel pays africain, la visite de Benjamin Netanyahou est là comme une espèce de feu vert donné, c'est-à-dire on s'assure que l'État qui a bien reçu Benjamin Netanyahou, déroulera, comme on dit, le tapis rouge aux intérêts industriels et miniers de grands groupes capitalistes israéliens. Ça existe, ça existait à l'origine, bien sûr, c'est historique dans le diamant, mais ça s'est élargi à beaucoup d'autres pierres précieuses, si j'ose dire, qui peuvent être du minerai de fer, du coltan, enfin tout ce qu'on connaît là-dessus. Et donc l'intérêt donc de ces visites-là, c'est que l'Israël prend place dans le concert des appétits extérieurs sur le continent africain comme un allié intéressant, habile, très introduit, très agressif en fait, dans le camp du camp occidental. C'est-à-dire que c'est plus discret une visite de Benjamin Netanyahu qu'une visite de Donald Trump, mais en fait c'est le même travail qui est fait par une espèce de partage des rôles qui est très très bien organisé et qui est bien connu maintenant. Voilà, voilà ce dont est l'enjeu du Tchad. Et puis on a ajouté alors la question des transports sur laquelle je reviens. C'est-à-dire que regardez un petit peu la carte. Les ambitions israéliennes d'avoir des relations régulières avec donc des pays d'Afrique passent par le voyage aérien, évidemment. Ces messieurs ne voyagent pas en bateau et pas en trottinette. Et donc, pour passer, il faut avoir des autorisations de survol dans différents pays. Alors donc, ça ne veut pas dire le fait que la visite ait eu lieu au Tchad, ça ne veut pas dire que les hommes d'affaires israéliens vont se jeter sur le Tchad dans l'état de sous-développement où ils se trouvent. Mais regardez bien la carte, le fait de bénéficier de la facilité de circuler dans l'espace aérien tchadien va permettre à l'aviation israélienne, civile jusqu'à présent, mais on peut douter qu'il y aura aussi du drone et d'autres genres de véhicules volants, de permettre donc à cette aviation israélienne de traverser le continent africain pour aller jusqu'en Afrique occidentale et pour aller même au-delà, suivez mon regard, et traverser l'océan Atlantique Sud pour aller jusqu'en Amérique latine, où là on sait, en particulier depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, que les intérêts israéliens sont très très forts et très très bien représentés, que ce soit en Argentine, que ce soit au Brésil, que ce soit en Colombie tout particulièrement. Donc on a comme ça des petits gestes, l'air de rien, vous voyez, Benalla, Macron, Benjamin Netanyahu, tout ça s'inscrivant dans une stratégie générale de défense des intérêts d'un des deux camps en cours de constitution et qu'on va voir se retrouver dans d'autres latitudes. Ce sera à la suite de l'émission puisque je vais vous parler, bien entendu, du Venezuela. Alors, du Venezuela, alors on va ce qui s'est passé. Donc, vous avez tous suivi le déroulement des opérations. Tout d'un coup, à la date exactement fixée dans un calendrier qui était public, qui était connu, dont on parlait déjà dans les journaux vénézuéliens, dont chacun, toute personne qui voulait le savoir savait que le jour où effectivement Nicolas Maduro entamerait son nouveau mandat à la tête du Venezuela, ce jour-là, le même jour, il y aurait un candidat à son remplacement qui serait sorti des coulisses et qui serait mis à la lumière des projecteurs mondiaux, rien moins que par Donald Trump, suivi immédiatement par ses petits chiens fidèles. Donc j'ai parlé d'Emmanuel Macron et de quelques autres, en l'occurrence. Alors qu'est-ce qui se passe donc à la date prévue ? Il est déclaré qu'un monsieur qui est le président de l'Assemblée nationale et devient le président intérimaire du Venezuela. Alors il dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben c'est rien, c'est seulement on a décidé que ça serait comme ça et on a décidé de mettre sur le marché mondial de l'opinion. Il y a l'opinion, bien sûr, et puis il y a les intérêts derrière. Sur le marché mondial de l'opinion, un monsieur qui est destiné à prendre la place du président légalement élu et reconnu par la communauté internationale. C'est-à-dire qu'on annonce qu'il y a un coup d'État qui est en préparation et que donc le président actuel va être remplacé par un qui a été choisi par personne, si ce n'est qu'il a été choisi de l'extérieur, mais sur lequel jamais les Vénézuéliens n'ont eu à se prononcer. Et ça, c'est ça qui est assez fabuleux. C'est-à-dire que Monsieur Guaido n'est jamais que le président de l'Assemblée nationale. Il a été élu par ses pairs, les députés, mais jamais aucun Vénézuélien n'a eu l'occasion de se prononcer sur le fait que ce monsieur était capable et était reconnu comme le président de la République bolivarienne du Venezuela. Ce qui veut dire que, alors, arriver à ce niveau-là de fabrication de l'événement, on se dit qu'à partir comme ça, les puissances occidentales, Trump, etc., pourraient décider pratiquement maintenant tous les matins de dire à tel chef d'État, on ne le reconnaît pas, et un tel, on trouve un quelconque citoyen de la République, de je ne sais quoi, de Turquie, d'Iran, enfin j'imagine comme ça quelques adversaires possibles, et on dit, ben voilà, celui qui est en place, on ne le connaît pas, c'est un autre qu'on veut à la place. Et c'est ça que ça veut dire, on veut Guaido à la place de Maduro. Alors pourquoi ce choix quand même ? Ce choix n'est pas tout à fait le fait du hasard. Il y a l'aspect people, l'aspect photo, etc. Donc, il s'agit d'un personnage jeune, sympathique, d'extérieur, 35 ans, qui fait pas du tout vieux réactionnaire, revanchard, défendant son gagne-pain et ses milliards, plus exactement. Non, il s'agit d'un monsieur qui exerce une fonction politique. Alors, il l'exerce quand même à l'Assemblée nationale. Un mot là-dessus. À la dernière élection de l'Assemblée nationale du Venezuela, il s'est passé un phénomène particulier, c'est que les votes, les élections donc des représentants élus ont été validées par une commission électorale indépendante. Je souligne parce que ce n'est pas très compris et c'est surtout beaucoup caché dans les médias français occidentaux. Il y a dans la constitution vénézuélienne, ce qui est très différent de la nôtre, un organe indépendant qui n'est pas le gouvernement, qui la commission électorale indépendante, qui valide les résultats. Et donc, son choix est tel qu'il est, mais ce n'est pas du tout le gouvernement, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur comme c'est en France, ce n'est pas la présidence, c'est un organe indépendant. Cet organe indépendant, quand ces élections donc, à l'Assemblée nationale vénézuélienne ont eu lieu, a contesté, et donc il n'a pas reconnu l'élection de plusieurs députés, considérant qu'il y avait eu des fraudes. Et donc, en fait, la majorité dont est issu M. Guaido n'a pas été reconnue par la commission électorale et donc pas par le gouvernement qui a dit, en fait, M. Guaido n'est élu que par une assemblée dont la majorité n'est pas reconnue. C'est-à-dire qu'il y a là des députés qui ne sont pas, enfin, qui sont venus siéger parce qu'ils ont fait comme si la décision de la commission électorale indépendante n'avait pas lieu, et donc il constitue une majorité qui, en fait, n'existe pas réellement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il s'est passé à ce moment-là que, dans la grande sagesse de la constitution bolivarienne, donc élaborée par les équipes de Hugo Chavez avant, il était dit qu'en cas de paralysie des pouvoirs, puisque là, en fait, on se trouvait dans la situation où on avait un gouvernement qui gouvernait, on avait une commission électorale qui avait fait son travail et une assemblée qui était paralysée puisque, de fait, elle disait qu'elle pouvait prendre des décisions, donc exercer le pouvoir législatif. Et en fait, elle ne pouvait pas le faire puisqu'en fait, il y a une partie de ses élus qui n'étaient pas reconnus comme ayant été élus. Donc, c'était un gouvernement. M. Guaido est minoritaire des jurés en droit. M. Guaido est minoritaire à l'Assemblée nationale vénézuélienne. Ce qu'a fait la Constitution, ce qu'avait prévu la Constitution vénézuélienne, c'est que dans ce cas-là, il était créé par vote une assemblée constituante qui revoyait les règles du jeu et qui pouvait légiférer en l'absence et en la parole paralysie en droit de l'Assemblée nationale. Ce qui fut fait. Et donc il existe aujourd'hui une assemblée constituante qui travaille et qui est en capacité de prendre des mesures juridiques de l'ordre du législatif que la Chambre des députés, que l'Assemblée nationale ne peut pas prendre. Donc c'est ça qu'il faut voir. M. Guaido, qu'on vous présente comme le président de l'Assemblée nationale, c'est le président d'une assemblée qui n'a pas de pouvoir. Et qui n'a pas de pouvoir non pas parce que le gouvernement vénézuélien a décidé qu'elle n'en aurait pas, mais parce que simplement la Constitution ne lui donne pas de pouvoir. Son pouvoir n'est pas reconnu puisque M. Guaido n'est en droit pas majoritaire dans l'Assemblée. C'est ça, c'est ce phénomène-là qui est totalement occulté, alors qui est une vraie difficulté pour le gouvernement bolivarien, qui a été obligé de trouver cette voie de l'Assemblée constituante, de laisser l'Assemblée se réunir, puisqu'ils se réunissent, apparemment ils sont même payés pour faire un travail qu'ils ne font pas, puisqu'ils n'ont pas la loi pour eux, et l'Assemblée constituante continue à faire le travail législatif qui est nécessaire, comme dans toute république. Voilà d'où sort monsieur Guaido. Et donc sa légitimité et le fait qu'il soit pas du tout le représentant du peuple vénézuélien est confirmé très très largement et au-delà. Bon, ça n'a pas empêché toute la manipulation qu'on a vue sur les mises en demeure de monsieur Maduro, soit carrément de démissionner dans la semaine, soit de dissoudre, enfin tout ce qu'on a pu imaginer, soit tu t'en vas, enfin des règlements. Règlement de compte trop facile sur lequel je ne m'étends pas, qui sont un peu tristes. Et puis, une mobilisation de l'appareil médiatique et propagandiste international pour dire qu'il faut vraiment que ce monsieur-là s'en aille, puisque maintenant, il y a un remplaçant. Bien sûr, il y a un remplaçant que l'Occident, Trump, Macron a choisi. Donc, puisque ces gens-là, je veux dire, Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel, on dit « c'est lui le président ben, », on ne voit pas pourquoi 35 millions de Vénézuéliens diraient le contraire. Car dans quel monde sommes-nous ? dans un monde où, quand M. Trump dit « c'est Guaido qui est le président », quand M. Macron dit « c'est Guaido qui est le président », 35 millions de personnes disent « ok, tu as raison, oui chef, courbez la tête, etc. » Bon, c'est plus tout à fait comme ça que ça se passe. Bon, heureusement. Heureusement, c'est même plus tout à fait comme ça que ça se passe, parce que quelle est la réaction ? Alors, les réactions, alors d'une part, il y a eu des réactions, celles que je vous ai dit, donc des réactions de gouvernement européen, c'est inadmissible que Maduro ne veuille pas s'en aller, etc. Reprise par le gouvernement espagnol, le gouvernement britannique, le gouvernement allemand, le gouvernement français, le gouvernement suédois et quelques autres, mais ça n'a pas fait l'unanimité malgré tout, puisque le gouvernement italien, mauvaise tête parmi les mauvaises têtes dans l'Union ou la désunion européenne telle qu'elle est, n'a pas voulu se livrer à cet exercice. Pas plus que le gouvernement grec, sur lequel j'aurais d'autres choses à dire qui sont moins reluisantes. Toujours est-il que l'Union européenne, là, a une nouvelle fois volé en éclats. Elle n'a pas de politique étrangère commune. Elle essaye d'en avoir une par la voix de Mme Mogherini, mais ça ne va pas très très loin. Là, c'est un cas très très flagrant, effectivement. La mise en demeure de M. Maduro de s'en aller n'a pas été suivie des faits. Ça, c'est une première observation, mais ça ne va pas très très loin. L'Union européenne, elle est dans l'état où on le sait, et ça ne s'est pas beaucoup arrangé sur ce dernier événement. La deuxième réaction est très intéressante. Elle vient de l'ONU elle-même et du secrétaire général de l'ONU, donc le personnage principal, M. Gutiérrez, ce diplomate portugais, qui, par prudence, il a bien fait, a déclaré que pour l'ONU, il n'y avait qu'un seul gouvernement légitime au Venezuela et que ce gouvernement était celui qui était sorti des urnes, celui de M. Maduro, parce que M. Guaido n'est sorti de rien du tout, que des agences de presse et de la CIA. Bon. Ça, c'est un point tout à fait important, c'est-à-dire que l'ONU... Et l'ONU, d'une certaine façon, défend son statut. Car si l'ONU se met à reconnaître n'importe quel pantin qui a été sorti d'une officine obscure de Washington ou de Paris ou de Berlin, l'ONU peut fermer boutique tout de suite. C'est-à-dire que ça devient absolument intenable et on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui gouverne, etc. Donc il y a des règles. M. Maduro a été élu. M. Guaido ne l'a pas été. Donc pour l'instant, et jusqu'à nouvel ordre, M. Maduro est le président de la République bolivarienne du Venezuela. Que les choses soient claires. Ouf, j'ai dit, tant mieux pour l'ONU, mais j'ai dit, si l'ONU n'avait pas pris cette position, l'ONU était en train de se saborder. C'est-à-dire que ça devenait absolument intenable. Et puis l'ONU a eu la sagesse de faire un peu le compte des opposants et à M. Maduro et le compte des soutiens à M. Maduro. Alors, j'ai fait parmi les opposants, donc j'en ai cité un certain nombre qui se sont manifestés, et puis très, très vigoureusement, hein, par tweet, etc. Bon, avec les méthodes actuelles du lobbying et de la manipulation des masses telles qu'elles fonctionnent dans l'ère de l'informatique et des nouvelles technologies. Mais il y a quand même dans le camp de ceux qui soutiennent M. Maduro et la légitimité de son gouvernement élu, il y a quand même la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie et quelques autres. Et ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Et donc, la simple présence d'esprit et la simple prudence de M. Gutiérrez, secrétaire général de l'ONU, le conduisait nécessairement à dire, effectivement, il y a au moins deux points de vue opposés sur cette question. Surtout, ne faisons pas l'erreur de fâcher tous ces gens-là qui sont dans le sens du droit, c'est-à-dire il y a un élu et l'autre ne l'est pas. Donc ne faisons pas l'erreur de fâcher ces gens-là. Appelons simplement, ça c'est de bonne diplomatie, à essayer de trouver une solution, à réunir les parties pour savoir si on peut sortir de Venezuela de sa crise. Alors ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Toujours est-il que, fort de cette mise en scène, le camp de Guaido a essayé donc des manifestations de rue qui n'ont pas donné de très très grands résultats et qui ont été à la limite plus parlantes de ce qu'on peut même rêver. C'est-à-dire imaginer une place de Caracas, alors plutôt dans les beaux quartiers évidemment, imaginer une place de Caracas où il y a une installation, une tribune faite comme s'il y avait un énorme concert des Rolling Stones, c'est à peu près l'échelle, et où il y a au fond de l'écran le drapeau israélien. Ah, dit, ah bon ? Et puis après, on lui met le drapeau américain pour bien comprendre qui sont les amis de M. Guaido et qui finance les campagnes de M. Guaido. Alors ça, ça n'a pas très très bien marché, alors que du côté donc, du gouvernement légal et légitime de M. Maduro, les manifestations de masse ont été effectivement des manifestations de masse très 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 importantes. Et il y avait évidemment le drapeau vénézuélien. J'ai même vu une vidéo où on voit cette foule vénézuélienne donc soutenant le faux président, M. Guaido, abaisser, descendre, comme on dit, le drapeau vénézuélien pour élever à la place le drapeau américain. Il n'y a rien de plus clair, c'est-à-dire, hein, nous ne sommes plus Vénézuéliens, nous sommes ce que nous voulons être, une colonie des États-Unis. Hein, on hisse le drapeau et on abaisse le drapeau vénézuélien. La charge symbolique est quand même pas très très nulle. Alors ça, je ne sais pas si ça sera montré sur les antennes des télévisions publiques, mais c'est à ce niveau-là qu'on en est. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des éléments de la société vénézuélienne, éléments donc bourgeois, petits bourgeois, moyens bourgeois, quelques militaires, qui sont en train de dire qu'ils souhaitent devenir une colonie des États-Unis d'Amérique. Bon, avec tout ce que ça suppose pour la suite. C'est très intéressant à noter. Évidemment, on n'en fera pas beaucoup des gorges chaudes. Dernier aspect, la première réaction de masse, manifestation de soutien au gouvernement actuel et au président Maduro. Deuxième réaction sur le plan de comment sortir politiquement de la situation. Et bien là encore, c'est à nouveau l'Assemblée constituante qui va donner la clé. Cette Assemblée constituante a été élue. Son élection n'a pas été contestée. Personne ne parle d'elle à part les Vénézuéliens. Et l'Assemblée constituante va probablement décider, c'est ce qui lui est proposé par le gouvernement de Nicolas Maduro, d'organiser des élections législatives anticipées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, puisque cette Assemblée nationale présidée par M. Guaido ne peut pas fonctionner puisqu'une partie de ses élus n'ont pas été reconnus par la Commission électorale indépendante, on va réélire une Assemblée nationale. Et à ce moment-là, il sortira des urnes en espérant qu'il n'y aura pas à nouveau des fraudes excessives mettant en cause l'élection de tel ou tel député dans telle ou telle province vénézuélienne. On aura une Assemblée nationale en capacité de fonctionner. Et on verra bien si M. Guaido est réélu président. Ça, voilà, on en est là et on en est là. Au fond, c'est une proposition politique solide, c'est une proposition constitutionnelle en droit, c'est une proposition d'ouverture, puisqu'au fond, l'Assemblée qui siège et qui ne sert à rien avait encore un mandat qui allait durer. Là, on dit effectivement, là, ça ne sert à rien, elle paralyse, et puis elle est en train, c'est une espèce d'abcès qui pourrit la situation politique vénézuélienne et dont s'emparent les pays étrangers, ennemis. Donc les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc. Et donc on va changer, on va réélire une Assemblée nationale. Et on verra bien ce qui se passe. C'est-à-dire que le combat est nettement politique et il se passe dans un cadre où il n'y a pas de violation de la Constitution, où il n'y a pas de violation des règles, où il n'y a pas de menace sur les uns et sur les autres. Alors il reste la dernière question, c'est la question de savoir si M. Guaido continue à se comporter en chef d'État, jusqu'à quel moment ne peut-il pas être inculpé de sédition, c'est-à-dire d'atteinte à la sécurité du pays, puisqu'au fond, il n'est président de rien du tout, il n'est reconnu que par des gens qui veulent simplement renverser le pouvoir. Donc je ne sais pas si le gouvernement vénézuélien ira jusque-là, mais on peut imaginer qu'ils disent, bon, effectivement, ce monsieur obéit à un autre pays qu'au nôtre, c'est-à-dire il est gouverné de l'extérieur, il n'a aucun droit à devenir le gouvernement de ce pays, puisque ce n'est pas lui qui décide des positions qu'il prend, ni ce n'est pas lui qui finance. À cela s'ajoute toute une série de manifestations, genre on fabrique, alors ça je le cite parce que c'est très amusant, on voit passer dans les télévisions internationales, États-Unis, etc., des vidéos montrant des officiers généraux vénézuéliens qui disent « il faut renverser Maduro ». Et puis à bien regarder, alors vous savez, il y a des gens qui regardent, parce que quand on a un uniforme, il y a des insignes de grade, il y a des insignes, tout ce qu'on veut. Et en fait, les militaires qui ont été utilisés pour cette vidéo portaient des uniformes qui avaient le nom de l'armée vénézuélienne qui n'était pas le nom actuel. C'est-à-dire que c'est un faux qui a été fabriqué il y a quelque temps avec de vieux uniformes. Donc on a trouvé soit des comédiens, soit de vrais anciens officiers généraux supérieurs pour jouer un sketch disant qu'ils n'aimaient pas Maduro. Voilà, dans le monde politique dans lequel nous vivons, dans cette crise des rapports internationaux qui est forte, puisque je dis, quand on voit le face-à-face, donc Russie, Chine, Iran, Turquie et quelques autres, et de l'autre côté, États-Unis, Allemagne, France, Suède, Autriche, j'en passe, Espagne, on a, et Israël, bien entendu, on a affaire à deux camps qui sont en train de bien se délimiter, car effectivement, la planète est en désordre. On aura l'occasion d'en reparler souvent. Voilà, pour terminer sur cette séquence vénézuélienne, je vais vous écouter pour vous donner la tonalité, le ton et l'ambiance des manifestations à Caracas en soutien de Nicolas Maduro. Une brève intervention de Madame le maire de Caracas, femme vigoureuse.
Y así seguiremos. Yo quiero que todos, con nuestra alegría, con nuestra fuerza, que nos caracteriza, con nuestros brazos en alto, con nuestros aplausos y con nuestra sonrisa, le mandemos un saludo a ese gran hombre que es nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Vamos, Nicolás, que aquí hay pueblo para maniobrar. Vamos, Nicolás, que aquí estamos contigo. Vamos, Nicolás, que estamos venciendo. Nadie podrá con nosotros. Nuestra fuerza es histórica. Nuestra fuerza tiene más de 500 años. Nuestra lucha tiene más de 500 años. Y lo hemos dicho, no hay imperio, no hay burguesía y no hay oligarquía que pueda detener la marcha victoriosa del pueblo de Chávez. Así que felicitémonos, camaradas. Aquí estamos, en un abrazo, en una sonrisa, en un saludo. Eso es lo que somos y eso es lo que vamos a hacer siempre. Los tenemos locos, están disociados. Chávez los volvió locos y Nicolás de remate. Así que nosotros estamos aquí, allá esa derecha inmadura. Y aquí está la izquierda, aquí está el pueblo maduro en la calle, luchando, batallando y venciendo. ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva nuestro comandante Chávez! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Y que viva la patria, carajo!
Aquí tenían las declaraciones de la alcaldesa Erika Farías, quien se encuentra participando en esta movilización.
Voilà, donc on entend le discours vigoureux de Madame le maire de Caracas, qui salue donc le peuple vénézuélien qui est dans la rue, qui défend son président, qui défend l'honneur de Hugo Chavez et de son successeur, et qui dit « nous les rendons fous ». Hein, ils sont fous parce que nous sommes indépendants, nous essayons de marcher sur nos deux jambes, comme disaient d'autres, et ils ne supportent pas. Mais ici, ce n'est plus la bourgeoisie, ni les oligarques, ni les financiers qui gouvernent, c'est le peuple, et c'est de ça qu'il faut qu'il soit conscient, et nous allons continuer à nous battre contre ceux que nous avons déjà rendus fous. Et puis elle ajoute, nous avons la force et nous avons le sourire. C'est tout à fait notable dans ce type de rassemblement et de discours, c'est-à-dire c'est pas simplement un discours qui serait un discours autoritaire d'écraser l'adversaire, mais la force populaire, c'est une force souriante, c'est une force qui ne décide pas de tuer, c'est une force qui ne va pas emprisonner et passer par les armes les opposants fabriqués à Washington ou à Paris ou à Madrid, c'est une force souriante, c'est la force du peuple uni. Le plus uni possible face à tous les diviseurs qui sont à l'extérieur. Alors, je n'ai pas mentionné la Colombie, mais effectivement, on sait que c'est un des facteurs de division les plus inquiétants, puisqu'il ne faut pas exclure que dans ce délire donc impérialiste dans lequel ces messieurs rendus fous par le chavisme, il y ait la tentative, probablement déjà prête, de venir infiltrer des paramilitaires ou des forces spéciales dans le Venezuela via la frontière avec la Colombie, donc à l'ouest du pays, pour semer des troubles qui justifieraient, alors écoutez bien les références, c'est très très simple. Qu'est-ce qui a justifié le bombardement de la Libye, la destruction du régime libyen et l'assassinat de Muammar Kadhafi ? Des troubles à Benghazi. Et c'est parce qu'il y avait des troubles qu'on dit « oh là là !» et que le gouvernement était obligé de réagir contre ces troubles armés. Ce n'était pas des manifestations contre Emmanuel Macron. Non, non, c'était des troubles armés. Et dès l'instant où le gouvernement de la Jamaria libyenne avait décidé de réagir avec la force dont il disposait, c'est-à-dire la légalité de la République de la Jamaria libyenne, on disait « oh là là, là, ils sont en train de tuer leur peuple et donc il faut arrêter ». Et donc on a continué de tuer le peuple, et on a tué le gouvernement et le chef d'État qui allait avec. On est tout à fait dans ces dispositions-là. Est-ce que ça va marcher ? C'est pas évident, puisque la répétition affadit ce type de tactique, c'est-à-dire que le fait qu'on l'ait vu fonctionner très grossièrement en Libye fait que ça risque de pas trop passer au Venezuela, mais il faut savoir que les forces sont prêtes et qu'il y a, hélas, dans ce triste pays qu'est la Colombie, du point de vue de la démocratie réelle, il y a les éléments, les forces, les gens prêts, les gens habitués à mener des attaques terroristes, à faire un travail d'escadron de la mort, comme ça s'est passé dans d'autres pays, pour aller semer le désordre dans le pays voisin. C'est certain. Prêt. Et la frontière est très compliquée, très longue, dans des zones de jungle, très difficile à contrôler. Ça, c'est une orientation possible, en espérant que le calcul et la politique qu'ont mis en place de renouveler l'Assemblée nationale, effectivement, est un élément de détente dans la situation. Je n'ai pas parlé, mais il faudrait quand même le citer, que dans le même temps où on fabrique donc un opposant politique, on paralyse aussi les finances de la République bolivarienne du Venezuela en gardant ici et là, dans des coffres de banque à l'étranger, à la cité de Londres et tout, de l'or qui appartient aux sociétés vénézuéliennes, en particulier à la société pétrolière, qui est la grosse société qui rapporte de l'argent au Venezuela. Donc là, c'est des actes aussi de banditisme international menés par des gens qui, soi-disant, sont là pour défendre le droit et qui ne le défendent pas. Voilà pour ce qui est du Venezuela. Alors, je voulais m'arrêter un petit peu sur la France. On en a parlé en début d'émission. Et pour vous parler d'un personnage que beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas, qui s'appelle Josette Audin. Josette Audin est décédée donc ce week-end à 87 ans, je crois. Elle est peu connue. Elle est peu connue et en même temps, elle mérite de l'être. Et au moins, on a un plaisir et on a même le devoir, je trouve, le devoir moral de la citer au moment où elle décède, parce que cette dame respectable a mené un combat de 50 ans pour savoir de quoi était mort son mari. Car son mari a disparu, elle ne l'a jamais revu. Un beau jour donc de 1957, du mois de juin 1957, à Alger, elle ne l'a jamais revue et elle n'a jamais su, et elle est morte sans savoir comment, où était mort son mari et qui l'avait tué. Voilà. Alors ça, c'est une espèce d'échec très très douloureux, puisque son acharnement, sa vigueur à essayer de faire la lumière sur ce qui était arrivé à son mari, qui était simplement un militant du Parti communiste algérien, qui était favorable à l'indépendance de l'Algérie, qui l'avait dit, et qui n'était pas les armes à la main. Maurice Audin était professeur de mathématiques, il ne faisait pas des attentats dans la Casbah d'Alger, il disait simplement, comme le Parti communiste algérien, que la revendication d'indépendance des Algériens, portée par le Front National de Libération, était juste. Ça, c'était inacceptable pour la République française de l'époque. Et donc, Maurice Audin, un beau matin, est emporté par les parachutistes et on n'aura plus jamais de ses nouvelles. C'est intéressant de s'arrêter là-dessus parce que la République française a fait, alors que Madame Audin a passé une bonne partie de son temps, de sa vie, donc depuis 50 ans, à essayer, en agissant par tous les moyens, elle a monté un comité Maurice Audin, à essayer de savoir ce qui s'était passé. Elle voulait la vérité. Où est, qui a tué mon mari, quand, comment, sous les ordres de qui, etc. Bon. Elle n'y est pas arrivée, mais elle a quand même fait parler d'elle. Certains historiens ont soutenu sa cause. Je pense à Pierre Vidal-Naquet en particulier. Son combat a eu un certain écho, mais un certain écho dans des cercles militants. Et puis tout d'un coup, au détour du mois de septembre 2018, un certain Emmanuel Macron se fend d'un texte, d'un communiqué. Donc ce n'est pas un discours, c'est un communiqué donc rédigé, je pense avec beaucoup de soin, par l'Élysée, au sujet de Maurice Audin. Et là, c'est très intéressant à suivre parce qu'il y aurait comme un début de reconnaissance sur le fait que c'est l'État qui est bien responsable de la disparition de Maurice Audin. Alors, ça vient après des décennies de dénégation. On ne savait pas, mais l'État y était pour rien. Ça vient après une légère ouverture du temps de François Hollande, mais on va en savoir un peu plus en écoutant un petit morceau d'interview que vous allez écouter. Mais je vais vous laisser écouter ce petit bout d'interview et puis on reviendra après sur ce communiqué de l'Élysée et sur la façon dont il faut le comprendre. Car là encore, le personnage qui rédige ce communiqué ou qui le rend public sous son nom, qui s'appelle Emmanuel Macron, est un dangereux manipulateur de langage. Mais on y reviendra. On écoute d'abord l'interview d'une historienne qui a consacré beaucoup de temps, donc une historienne de métier, à essayer de faire la lumière en appuyant Josette Audin et à faire la lumière sur cette période-là noire de la République française pendant la guerre d'Algérie. On l'écoute telle qu'elle passait hier dans une émission de Radio France, quelques minutes en fin d'une émission qui n'était pas consacrée au sujet. On écoute.
Sylvie Tello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la guerre d'Algérie et vous avez beaucoup fréquenté Josette Audin depuis très longtemps maintenant. Est-ce que vous pouvez nous faire son portrait brièvement ?
La première chose à dire, je crois, c'est que c'était une combattante, vraiment, depuis 1957. Dès que les parachutistes ont arrêté son mari à son domicile, le 11 juin au soir, elle n'a cessé de se battre pour savoir ce qui lui était arrivé. Pas vraiment, je ne sais pas, mais pas forcément les auteurs, mais au moins savoir d'abord où il était détenu, ce qui se passait pour lui, et ensuite savoir dans quelles circonstances il était mort. Parce que pour le coup, vous avez fait une sorte de petite inversion dans la présentation, et c'est pas grave, mais c'est elle qui est morte aujourd'hui et son mari qui est disparu.
Ah oui.
Parce que le propre de la disparition, c'est bien qu'on ne sait jamais comment la mort est survenue. Et c'est un immense regret, bien sûr, que Josette ait quitté la vie sans savoir ce qui s'était arrivé à son mari. Donc un combat de tous les temps. D'abord parce que le comité Maurice Audin lui doit beaucoup, la formation du comité Maurice Audin lui doit beaucoup. Et puis ensuite un combat incessant mené discrètement en écrivant au président de la République.
À tous les présidents de la République.
Tous les présidents de la République, et il y a eu un premier progrès avec François Hollande, qui avait fait en sorte qu'on lui communique les archives concernant son mari, militaire ou archives publiques, et puis une reconnaissance, mais limitée, parce que François Hollande avait dit « Maurice Audin est mort durant sa détention », donc on finissait avec la version officielle qui était « Maurice Audin s'est évadé ». C'est la réponse qu'on avait faite à Josette et c'est avec ça qu'elle a dû vivre toute sa vie. Et puis jusqu'à la déclaration de 2 septembre, dont on peut espérer qu'elle lui avait apporté un peu de sérénité. Et puis c'était la
déclaration d'Emmanuel Macron, vous pouvez nous la rappeler.
Oui, c'est une déclaration qui reconnaît que Maurice Audin a été la victime d'un système arrestation-détention, et donc il était possible de reconnaître la responsabilité de l'État dans sa disparition, même si on ne savait pas très exactement les circonstances de son décès. Et cette reconnaissance de la responsabilité de l'État, c'est une des choses pour lesquelles Josette Audin avait combattu toute sa vie. Mais je crois que je n'oublierai jamais quand même ses premiers mots au moment où elle a découvert le texte, qui était de dire « alors on ne saura jamais la vérité ». Et c'est bien ça qui distingue la disparition et la mort.
Voilà, donc on ne saura jamais. Un propos de la veuve de Maurice Audin, le contenu, disons, du communiqué officiel de l'Élysée dont il est question donc, dans cette interview, qui date donc du mois de septembre 2018, parle d'un système appelé arrestation-détention. Alors je m'arrête un peu là-dessus parce que l'Élysée, la présidence de la République, engage sa parole et sa lecture de l'événement en parlant d'un système appelé arrestation-détention, ça me paraît extrêmement inquiétant. Car dans la République française, qui est une République qui est dans l'état de droit, il n'y a pas de système avec deux guillemets arrestation, détention. Il y a des codes, il y a des lois, il y a des décrets, mais il n'y a pas de système arrestation, détention. Là, on est déjà dans une zone à la limite du droit. Pourquoi on est à la limite du droit ? On est en 56-57 en Algérie. Gouvernement de la 4e République, dirigé par Guy Mollet, avec au ministère de l'Intérieur un certain François Mitterrand. Et ce qui se passe et ce qui arrive à Maurice Audin et à quelques autres, et à de nombreux autres, c'est non pas le système arrestation-détention. Ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas en droit. C'est un concept fumeux, fabriqué à l'Élysée pour les besoins de la cause. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun texte de loi qui explique ce que c'est que le système arrestation-détention. Ce qui existe, c'est les pouvoirs spéciaux votés par le Parlement en 1956 et qui donnent carte blanche au gouvernement pour rétablir l'ordre en Algérie. Cette loi a permis l'adoption d'un décret autorisant la délégation des pouvoirs de police à l'armée qui a été mis en œuvre par arrêté préfectoral, d'abord à Alger, puis dans toute l'Algérie en 1957. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pourquoi on parle de pouvoirs spéciaux ? Parce qu'en fait, on est dans une espèce de fiction coloniale consistant à dire l'Algérie, c'est la France. Et en fait, la France n'ose pas, la République française n'ose pas dire qu'elle est en train de créer l'état de siège. L'état de siège, ça existe encore aujourd'hui, hélas, j'allais dire, parce qu'avec l'équipe qui est à la tête du gouvernement aujourd'hui et de l'Élysée, on peut s'inquiéter. L'état de siège, ça, c'est le moment où on passe de l'ordre normal et où c'est l'armée qui devient la détentrice de l'ordre, à la place de la police, de la gendarmerie, et en laissant de côté totalement la magistrature. C'est ça l'état de siège. Alors, en 1956, quand la Chambre vote les pouvoirs spéciaux, elle ne veut pas installer l'état de siège dans toute la République française, puisque le problème, c'est l'Algérie. Et donc, en fait, c'est ce qui explique que les pouvoirs spéciaux consistent à installer l'état de siège sans utiliser le nom, puisqu'on ne l'applique pas à tout le territoire, mais à utiliser l'état de siège directement sur le sol des ce qu'on appelait des départements algériens à l'époque, et donc à donner tous les pouvoirs à l'armée, ce que l'Élysée traduit dans son communiqué par « arrestation, détention ». C'est-à-dire qu'on peut arrêter n'importe qui est suspect. Alors, qui décide qui est suspect ? Ben, c'est le pouvoir tout seul. Est-ce qu'il y a un contrôle des arrestations ? Non, c'est-à-dire la magistrature ne sait rien. Alors, vous savez, quand vous êtes en prison, quand vous êtes en garde à vue aujourd'hui, même dans les lois très répressives qui sont votées ces derniers temps, vous avez encore la possibilité. On sait où vous êtes et il y a un magistrat qui est au courant de votre installation dans une prison. Mais là, non. Quand on est dans l'état de siège ou dans les pouvoirs spéciaux en 56-57, vous pouvez disparaître, ce qui est arrivé à Maurice Audin, et on ne sait pas où vous êtes, et l'appareil de la République ne sait rien ou ne veut rien savoir, même s'il a des doutes. C'est-à-dire l'armée est totalement maîtresse de l'ensemble de ces activités-là. Et donc, je m'explique assez bien ce que dit l'historienne Sylvie Tello dans son interview, que à la limite, Madame Audin était un peu déçue par ce discours, puisqu'au fond, c'est un discours qui essaye de justifier ce système de suppression de tous les droits, alors simplement sur une partie du territoire de ce qui était encore la République française, mais ça veut dire l'armée a tous les pouvoirs et elle fait ce qu'elle veut de n'importe quel individu qu'elle considère, elle, comme suspect. Voilà, là-dessus. Et puis, on va finir. Alors, on va rester dans la situation française. Je ne sais pas si on pourra l'écouter dans son intégralité, mais on y reviendra. On parle beaucoup de ces temps de l'Europe. Peut-être pas assez, mais on va en reparler de plus en plus. Et avant qu'on rentre dans le chaud de la campagne électorale qui s'ouvre et qui est en cours manifestement déjà à l'hôtel Matignon, à l'Élysée et dans différents ministères, en particulier dans celui de M. Le Drian, on va revenir à un moment historique qui est le moment du traité de Maastricht. Alors, souvenez-vous, on est en 1992, il va y avoir un référendum qui ne donnera pas, enfin, qui ne donnera pas un refus du traité de Maastricht, mais il y a une opposition forte et le discours qu'on va entendre, au moins en partie, je ne sais pas si on aura la totalité du temps, mais c'est un discours de Philippe Séguin, qui est donc un élu gaulliste, il faut le dire, qui répond à la politique conduite par le président de la République de l'époque, qui est favorable au traité de Maastricht, qui s'appelle à l'époque François Mitterrand. On écoute Philippe Séguin devant l'Assemblée nationale, on est donc en 1992.
Je le proclame donc d'emblée. dès lors que l'entrée de la France dans l'Europe de Maastricht constitue bien l'acte historique qu'a évoqué le président de la République, il serait normal, nécessaire, légitime, indispensable que la parole soit donnée au peuple. Non point que je conteste la légitimité de cette Assemblée. Je ne me suis pas associé au cœur de ceux qui, il y a quelques semaines, ne trouvaient pas de mots assez durs pour l'abaisser, pour réclamer sa dissolution, voire même proposer son auto-dissolution. Je constate d'ailleurs la contradiction dans laquelle s'enferment aujourd'hui nombre d'entre eux en se refusant à l'idée d'un référendum. Ce que je veux seulement dire, c'est que le recours à la voie parlementaire est contraire à l'esprit de notre pacte social, car ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire. C'est en outre une faute politique lourde, car c'est refuser de donner à un engagement aussi grave la sacralisation dont il a besoin. Et ne changerait rien à l'affaire, la manœuvre qui consisterait ultérieurement à ne faire ratifier par le peuple que ce que le Parlement aurait déjà décidé. Non, foin d'argutie, il me faut dire avec beaucoup d'autres, au nom de beaucoup d'autres, qu'il est bien temps de saisir notre peuple de la question européenne. Car voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé et que d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Qu'on m'entende bien, je ne viens ici donner de leçons à personne, alors qu'en retour, on veuille bien respecter ma propre démarche. Je me serais d'ailleurs bien passé d'être là. Il eût mieux valu, à l'évidence, que des voix plus fortes que la mienne engagent le combat. Elles ne l'ont pas souhaité, je me garderai de les juger. Je me contente de faire et d'assumer un autre choix. Ce n'est pas si facile. À la décharge des absents, je reconnais en effet bien volontiers que le conformisme ambiant, pour ne pas dire le véritable terrorisme intellectuel qui règne aujourd'hui, disqualifie par avance quiconque n'adhère pas à la nouvelle croyance et l'expose littéralement à l'invective. Qui veut se démarquer du culte fédéral est aussitôt tenu par les faiseurs d'opinion, et on l'a encore constaté cet après-midi, au mieux pour un contempteur de la modernité, un nostalgique ou un primaire, au pire pour un nationaliste forcené, tout prêt à renvoyer l'Europe aux vieux démons qui ont si souvent fait son malheur. Mais il est des moments où ce qui est en cause est tellement important que tout doit s'effacer. Et je ne parle pas ici au nom d'une France contre l'autre, car dès lors qu'il s'agit de la France, de la République et de la démocratie, il ne peut pas être question de la droite et de la gauche. Ce qui est en jeu est au-delà des partis, au-delà des clivages les plus naturels, au-delà des oppositions les plus légitimes, au-delà des querelles les plus anciennes, puisque l'enjeu n'est rien de moins que notre communauté de destin.
Voilà, on arrête là, il y aurait encore beaucoup à écouter, mais c'était pour laisser sur l'essentiel, c'est-à-dire ce discours qui dit, après 35 ans d'Europe, on est en 92, on est en train, avec le traité de Maastricht qui sera approuvé par référendum et avec une toute petite majorité, on est en train de passer à un moment où la souveraineté nationale est en train d'être divisée. Quand on ajoute que 25 ans plus tard aujourd'hui, tout ce que dénonce Philippe Séguin s'est exactement réalisé, c'est-à-dire commission, juridiction, etc., des oligarques, les experts, enfin des tas de choses qui se décident très très loin du peuple et d'autant plus en plus loin du peuple, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de monde dans cette Union européenne très compliquée, qu'il y a maintenant la monnaie qui s'est ajoutée à ça, le discours est tout à fait prémonitoire. Et quand il parle de terrorisme intellectuel, de ceux qui subit par ceux qui ne disent pas ce que tout le monde doit dire, on retrouve exactement ce qui s'est passé en 2005 au moment du référendum sur la Constitution européenne. C'est-à-dire que toute personne qui disait que cette Constitution était dangereuse pour le pays était considérée comme un fou furieux, comme un danger public ou comme un extrémiste. Donc c'est assez étonnant de trouver Philippe Séguin qui, en 92, a mis le doigt exactement sur ce qui allait se passer, qui n'a fait que croître et embellir. Et on est arrivé à un moment où cette Union européenne est en train de craquer de tous les bouts. Alors on y reviendra beaucoup. On y reviendra parce que je vous parlerai la semaine prochaine, puisque l'heure approche, d'un livre qui vient de paraître aux États-Unis et qui s'appelle « La tragédie de l'euro ». Tragédie de l'euro, livre qui ne sera peut-être pas traduit en français, car l'auteur lui-même dit qu'il a fait le tour des éditeurs et qu'il n'a pas reçu un accueil très très chaleureux. Bien sûr, vous vous rendez compte, un éditeur français qui publie un livre solide fait par un économiste dont la femme a été présidente de la Réserve fédérale des États-Unis, rien que ça, le plus haut sommet dans la banque états-unienne, qui se met à parler de tragédie de l'euro. Alors il n'accuse pas, il dit ben voilà, ça marche pas pour telle et telle raison, et c'est un livre de 450 page, hein. Mais donc le risque est qu'il ne soit jamais traduit en français et que la tragédie se poursuive malgré tout, car ce n'est pas le livre qui empêcherait qu'elle se poursuive. Voilà cette Europe dans laquelle nous sommes, qui est de plus en plus loin du peuple, et s'éloigne du peuple tous ceux qui, à la tête de l'État français aujourd'hui, considèrent qu'il faut encore plus d'Europe et surtout encore moins de démocratie. Vous savez très bien de qui je parle. Merci de votre attention. Merci Sidi. À très bientôt.